Vous écoutez France Culture.
Des nouveaux chemins de la connaissance. Bonjour Raphaël Antoven, l'antenne est à vous ainsi qu'à vos invités.
Bonjour Pierre Chevalier, bonjour à tous. C'est le début ce lundi d'une semaine que les nouveaux chemins de la connaissance ont choisi de consacrer à la mythologie grecque, au titre tout simplement que c'est la plus ludique, la plus drôle et la plus intelligente peut-être, des portes d'entrée vers l'amour de la sagesse. Demain, mardi, Pierre Brunel viendra vous parler du mythe de Sisyphe. Mercredi, Bernard Sergent reviendra pour vous sur le mythe de l'Atlantide. Jeudi, nous évoquerons la figure d'Achille avec le philosophe Vincent Delcroix. Enfin, vendredi, c'est en compagnie de Luc Ferry, dont le dernier livre, La sagesse des mythes, est un partenariat entre France Culture et les éditions Plon, que nous terminerons cette semaine. Mais aujourd'hui, avec joie, c'est Lucien Gerfagnon, chers auditeurs, que vous avez pu entendre la semaine dernière parler de Vladimir Jankélévitch, que nous avons invité de nouveau, exauçant en cela d'ailleurs le souhait de bon nombre d'entre vous depuis l'émission diffusée jeudi dernier. Mais alors Lucien Gerfagnon, cette fois-ci, nous l'avons invité pour parler des mythes, de l'origine et du sens de la mythologie, car après avoir été l'élève de Vladimir Jankélévitch, Lucien Gerfagnon est devenu historien des idées, spécialiste de la pensée grecque et romaine et surtout conteur hors pair. Vos livres se dévorent comme des polars érudits. Au bonheur des sages, les dieux ne sont jamais loin, concilie l'érudition et le récit. Bravo, merci et bonjour de nouveau, cher Lucien.
Bonjour, cher Raphaël. Nous ne sommes jamais trop longtemps sans nous revoir et toute la joie dont vous parliez tout à l'heure, eh bien, elle est pour moi.
Heureusement. Alors, quand on dit Lucien Gerfagnon, vous notez ceci dans votre livre « Les dieux ne sont jamais loin », comme nous, nous ne sommes jamais loin, les dieux ne sont jamais loin. Vous notez ceci, vous dites « Les mythes, quand on dit de quelque chose, en général, c'est un mythe, c'est toujours un peu méprisant. » Je vous lis. « D'où vient, demandez-vous, la connotation péjorative que le mot même de mythe a prise avec le temps et qui aujourd'hui impliquerait pour les croyants une dévalorisation de leur foi ?» D'où procède cette dépréciation du mythique qui en fait un synonyme de jobardise, sinon du fait que le message transcendant n'est plus perçu, que tout cela ne dit plus rien à beaucoup de nos contemporains. Lucien Gerfagnon.
Tout se passe en quelque sorte comme si l'espérance avait décroché de plusieurs crans. On espérait pendant des siècles et même des millénaires, on espérait dans, disons, un au-delà de tout qui donnerait un sens à la vie. Et puis peu à peu, on s'est mis à espérer en toute autre chose. Et c'est toute une longue histoire, cette espérance qui décroche. Ça a pris des siècles. Il faudrait d'abord bien se rendre compte pourquoi il y a eu des mythes. Pourquoi on s'est mis tout à coup à croire en. Et alors là, rayer la mention inutile, on croit en.
Et à donner des phénomènes naturels, une version mythologique.
Absolument, parce que, tout simplement, parce qu'à un beau moment, les gens se sont aperçus qu'ils étaient là et qu'ils ne comprenaient pas très bien pourquoi. Chose qu'une, et pour ça, il faut qu'il y ait un néocortex qui fonctionne bien. Hein. Une vache dans un pré ne se demandera jamais ce qu'elle fait là. Parce que, si vous voulez, le néocortex est un cadeau d'une longue, longue, longue évolution. Le bébé dans son couffin ne se demande pas non plus ce qu'il fait là, il n'en sait rien, il ne se le demande pas, mais son néocortex ne lui fichera pas la paix longtemps et il ne tardera pas à s'apercevoir qu'un beau jour, il est là. Et un autre beau jour, et ça ne sera pas un beau jour, il en partira de ce monde.
Alors précisément, l'humanité à l'aube de son histoire,
alors précisément,
tel le bébé malin, se pose cette question.
Voilà, on s'est posé la question, on s'est posé d'ailleurs de façon très vague. J'aurais toujours bien aimé savoir ce qu'on se racontait à la veillée, si tant est qu'il y eut des veillées dans les grottes d'Altamira ou de ces coins-là, n'est-ce pas? Quel langage avait-on? La terre a mangé ses archives, les humains ont emporté leurs archives dans leurs tombes, tant et si bien que nous nous ne savons absolument pas ce qui se racontait. On ne savait pas grand-chose de ce qu'il pensait. Et c'est par souvent c'est par grâce aux archéologues qu'on a pu trouver aux archéologues de tous les siècles qu'on a pu trouver par exemple des tombes. Et trouvant des tombes, on s'est dit tiens, une vache n'enterre jamais son veau quand il meurt, mais un homme, c'est curieux quand même qu'il enterre d'autres hommes. S'il enterre ses morts, c'est donc, c'est pas seulement pour l'amour qu'il leur portait, parce qu'autrement il ne mettrait pas des tas de choses à côté du mort, au cas où il en aurait besoin, ou, et bien précisément, dans un autre monde, qu'est-ce qu'il fait là, l'autre monde ? Eh bien, il tente d'expliquer cet autre monde, ce qu'on fait dans celui-ci.
En somme, ce que vous dites, Lucien Gerfagnon, c'est que les mythes qui seraient bannis aujourd'hui du régime autoritaire de la raison suffisante, hein, et je prends le terme de raison suffisante égards ici,
je vois.
Les mythes qui seraient punis sous l'égide du, c'est vous qui le dites, hein, circuler, il n'y a rien à croire, sous cette espèce de tempérament policier qui voudrait exclure tout ce qui relève de la pensée magique. Donc, les mythes témoignent au départ, la traduction en récit de phénomènes naturels témoigne au départ d'une volonté de connaître.
Une volonté de connaître et d'organiser la connaissance, parce qu'au fond, c'est Gusdorf qui dit quelque part que le mythe est la première façon d'être au monde.
La forme spontanée de l'être au monde.
Et je dirais que à propos de la causalité, par exemple, le mythe, qui est un surnaturel, dit-on, le mythe, c'est la première façon de selon laquelle s'est exprimé le principe de causalité, le principe rationnel, le premier principe rationnel. Il faut que le monde ait un commencement, ait une fin. Donc, on avait un grand besoin de cette sécurité intérieure qui s'est affirmée avec les âges.
Mais alors, vous dites un principe rationnel, mais en même temps, les mythes sont irrationnels. Au principe même de la... En même temps, on pourrait dire qu'au principe de toute démonstration, il y a de l'irrationnel, puisqu'il il y a de l'indémontré.
Oui, étant donné qu'on n'y comprend rien précisément, il faut qu'on comprenne quelque chose. Et c'est à partir de ce besoin de comprendre qu'on a été chercher dans un au-delà de tout. Par exemple, quand on parle du commencement, vous l'avez aussi bien dans la Bible en hébreu, je crois que c'est Bereshit, en grec c'est En Arche, en latin c'est In Principio.
De l'archéologie d'ailleurs, voilà, hein, qui est le discours des commencements.
Donc autrement dit, au commencement, ça veut dire quoi ? Eh bien, au commencement, on n'était pas là. Donc c'est un temps qui nous échappe, un temps qui nous échappera toujours. Mais dont nous parle justement des mutoi, des mythes, des légendes de 36 sortes. Ça peut être le monde de la Bible qui nous raconte comment Dieu a fabriqué l'homme à partir de terre, etc. Mais on le fabrique de 36 000 façons et quelquefois de façon pas très convenable. C'est encore dans chez
c'est,
les
c'est,
Hébreux.
C'est un des points communs entre les mythes et la réalité, Lucien.
Oui, je trouve que c'est encore dans la Bible que les choses se passent le plus correctement.
Les mythes ne sont jamais des fantaisies gratuites, sorties par jeu de l'imagination des premiers hommes. Les rédacteurs de ces histoires sacrées, qui ne sont d'ailleurs pas des histoires au sens où nous l'entendons, ne se sont pas mis à concocter des légendes comme un homme de lettres décide aujourd'hui de pondre un roman ou une plaquette de poèmes. Ils répercutent en esprit de foi des traditions remontant à la nuit des temps, et ils donnent à ce corpus, fait de pièces et de morceaux, une forme adaptée aux requêtes et aux usages de chaque époque. C'est vous qui le dites, ça, dans les dieux.
J'ai cru me reconnaître.
Eh oui, on vous retrouve, Lucien Gerfagnon.
Oui.
Quelle différence feriez-vous entre les histoires sacrées, que sont les mythes, et les romans?
Et pardon.
Les romans.
les romans. Mais un roman, il est voulu par un monsieur, monsieur lambda, qui vous voulez, il est voulu comme une fiction. Une fiction qui est dans laquelle et par laquelle ce monsieur lambda veut dire quelque chose. Et de ce point de vue-là, il y aurait une analogia, puisque nous étions partis dans du grec, allons-y, il y aurait une analogie, une correspondance entre les deux. Mais là, ce serait dans la tête des gens qui croyaient au mythe ou qui y croient, ce serait, si vous voulez, ça ne serait pas un roman, ce serait un récit de quelque chose qui s'est passé. Quelque chose qui s'est passé en ce temps-là. Autrement dit, quand on n'y était pas, dans un temps au-delà du temps et dans un espace au-delà de l'espace. On n'est pas du tout dans les catégories kantiennes de l'espace et du temps, n'est-ce pas, les formes a priori de la sensibilité. Parlons le patois des philosophes. On est dans, comment dire, dans un super temps, dans un super espace. D'où procède l'espace et le temps et tout ce qui s'y balade, tout ce qui s'y promène. Et du coup, le roman, c'est quelque chose qui est écrit par les dieux.
Le roman serait quelque chose écrit par les dieux et en même temps, les mythes sont bien l'œuvre des hommes, Lucien Gerfanou.
Des hommes, oui, mais qui ne laissent généralement pas leur nom, sauf dans la Bible où il y a des gens qui sont censés avoir écrit ça, mais toujours sous l'inspiration divine, d'après ce que j'ai cru comprendre en tant que chrétien au sens large du terme et donc en tant qu'ayant pratiqué la Bible, puisque le christianisme est quand même né du judaïsme, chose qu'il faut bien se garder d'oublier, parce qu'on ne comprend rien du tout au christianisme si on ne comprend pas si on n'essaie pas de comprendre la Bible, hein.
Alors revenons à la question des mythes, mais surtout à la question des mythes en Grèce,
oui.
Lucien Gerfanion. Parmi les mythes grecs, je voudrais savoir de quelle façon il convient de les lire. Si d'ailleurs il y a une façon qui convienne plus qu'une autre. Faut-il les lire comme autant d'histoires ? Faut-il les lire comme des récits édifiants ? Faut-il les lire comme des explications du monde ? Faut-il les lire en ayant à l'esprit l'œil que les Grecs posaient sur leurs propres récits et accorder la créance qu'éventuellement eux-mêmes pouvaient y accorder, encore que ? Voilà. De quelle façon lire ces textes-là aujourd'hui ?
De la façon dont la toute dernière dont vous venez de parler.
Et pourquoi
quand,
ça
voilà, parce que autrement.
D'abord, les Grecs ont-ils cru à leur mythe ?
On tombe à la merveilleuse question du cher Paul Venn, qui est un ami, très cher ami, avec qui je corresponds, j'allais dire depuis des siècles, 25 ans de correspondance.
Je renvoie l'auditeur à son livre. Les Grecs ont-ils cru à leur mythe qu'on trouve en coin seuil ?
Les Grecs ont-ils cru à leur mythe et le bonheur que pouvait avoir l'historien de la philosophie que je suis, de lire quelque chose par un merveilleux historien de ce monde-là. Et du coup, je redécouvrais chez lui des choses que je n'osais pas me formuler à moi-même, voyez. Et ce bouquin, c'est une merveille, il faut absolument lire ça.
L'auditeur l'a entendu, mais alors revenons quand même à cette question.
Oui.
Comment lire les mythes ? Faut-il l'avoir en tête, ce que les Grecs eux-mêmes en pensaient ? Et qu'en pensaient-ils ?
Vous voyez, je dirais que, et là encore c'est du Paul Venn que je vais citer, les idées générales ne sont ni vraies ni fausses, ni justes ni injustes, elles sont creuses. Et donc, on ne peut pas dire, dans l'Antiquité grecque, sans que moi je le dise, attendez, permettez, à quel moment précis ? Idem pour le monde romain. À Rome, oui, à Rome je veux bien, mais quand et dans quel milieu, etc. Donc il faut toujours être très attentif aux couches chronologiques. On ne pensait pas autant de, disons, d'Homère, d'Hésiode, etc. On ne voyait pas les dieux de la même manière qu'on les voit dans la République de Platon et qu'on les verra plus tard chez quelqu'un qui connaît le grec à la perfection, comme Marc Aurèle, n'est-ce pas, chez les Romains, mais ça sera malgré tout comme le monde grec. C'est le monde gréco-romain, dit encore Paul Venn. Donc il faut faire très attention à la manière dont chaque époque croit aux dieux et ce que cette époque-là y voit.
Alors quel était le statut de cette croyance ? Parce que les dieux grecs sont des dieux humains. Faillible,
très humain, il y a même de
colérique, jaloux,
oui,
mécontent, castrateur. En particulier, ce sont les fils qui castrent les pères,
oui,
d'ailleurs.
Bien sûr, oui. Ou qui
dévorent
leurs enfants. Vous pensez à Cronos. Alors justement, là, Cronos qui dévore ses enfants parce qu'il craint d'en être détrôné. Comme beaucoup de princes, d'ailleurs, craignent beaucoup d'être détrônés par leurs fils. Alors, même on a beau être divin, on n'en est pas moins homme. Et ça a permis d'ailleurs une utilisation de ce mythe quand on n'a plus cru exactement à la lettre que Cronos boulottait ses enfants un par un. On a pris le mot de Chronos, mais en le changeant d'initiale, au lieu d'un kappa.
D'un kappa, on a mis un ki.
On a mis un ki.
Ça a donné CH.
Autrement dit, c'est devenu Chronos avec un K, si vous voulez, en français. On est devenu Chronos, CHRO, qui veut dire le temps, d'où chronomètre, le temps. C'est à ce moment-là, le temps mange tous ceux qui sortent précisément de lui, donc le temps mange ses enfants. Voilà ce que ça voulait dire, dira le type qui explique les mythes aux autres. Le savant qui explique les mythes aux petits grecs dans la classe.
Mais alors restons justement sur cet exemple. Voilà, Cronos dévorant ses enfants, dont on a fait, et dont dans les bonnes dissertations, on fait une allégorie, n'est-ce pas, quand il s'agit de parler du temps.
Voilà.
Du temps qui dévore ceux qui sortent de lui.
Et c'était bien pratique avec les deux mots qui pouvaient suggérer soit le méchant papa qui boulottait ses enfants, soit le temps dont on a tant de mal à parler.
On est d'accord. Mais alors, autant pour moi. Lucien Gerfagnon, comment, que vaut une telle lecture ? Voilà. Est-ce que les Grecs, si tant est qu'on puisse se mettre dans l'esprit d'un Aède, racontant l'histoire en ce temps-là, comme vous dites, comment les Grecs eux-mêmes entendaient-ils cette histoire ? Est-ce qu'ils y voyaient d'emblée une allégorie ?
On a dû probablement, dans les premiers temps, on a dû avaler cela tranquillement, comme les gens avalaient encore au XIXe siècle l'histoire de Jonas qui avait été boulotté par un gros poisson qui était resté 3 jours dedans et que le poisson avait fini par pris de nausée, par rendre, etc. Mais là, c'est accroché à autre chose. On y croyait comme ça. Puis, après, on s'est mis à y croire de façon... On s'est dit, oh là, ça ne peut guère marcher comme ça. Je veux signaler tout de suite que dès le 5e, 6e siècle avant Jésus-Christ, il y a eu un monsieur qui s'appelait Théagène de Régium, Reggio di Calabria, Théagène de Régium, qui s'était aperçu que les gens n'avalaient plus les mythes d'Homère comme ça, tranquillement. Et il avait peur que ces mythes d'Homère soient balancés, qu'on n'y croit plus, etc. Et comme il se disait que les mythes avaient un sens, étaient porteurs d'un message, il s'est dit, il n'y a qu'une manière...
C'est de les écrire.
C'est de les écrire de façon allégorique, autrement dit, d'une façon autre, pour de les décrypter. Voilà. Et du coup, il s'est mis à décrypter tous les mythes. Et ça a permis aux mythes homériques et hésiodiques de demeurer jusqu'à, quasi indéfiniment, pendant toute, l'Antiquité.
Et dans et d'y voir comme aujourd'hui
un enseignement
une leçon, et le sel de la vie.
Une leçon sur la vie et sur la mort.
Où suis-je ? Je ne puis résister à ces pleurs. Non, le ciel ne veut pas un plus grand sacrifice pour ma chère Rivière. Malheureux, qu'ai-je fait? Et dans quel précipice m'a plongé mon funeste amour? Chère épouse, Eurydice, Eurydice, chère épouse, elle ne m'entend plus, je la perds à jamais. C'est moi qui lui ravis le jour, loi fatale. Quel remords, ma peine est sans égale. Dans ce moment funeste, le désespoir, la mort est tout ce qui me reste.
Mort, vie, hyperespace, mythologie, Orphée et Eurydice de Gluck. C'est la scène où Orphée s'apprête à transgresser l'interdit. Voilà ce dont on peut parler aujourd'hui avec vous, Lucien Gerfagnon, de la vie et de la mort en particulier dans cette question du mythe. Pour mémoire, Orphée va chercher son épouse Eurydice aux enfers.
Oui.
Grand mal lui en a pris d'ailleurs.
Et ça n'est jamais bien drôle. Quand les gens se sont aperçus qu'ils avaient été mis sur terre, mais qu'ils n'y resteraient pas, ça leur a toujours fait un choc. Et la rencontre avec la mort, ça n'est jamais un grand plaisir.
Et le sentiment que la mythologie grecque met en scène de façon, alors là pour le coup, véritablement, enfin très volontariste presque, le sentiment que la mort n'est pas la mort. Que ce soit le cas d'Orphée ou de Sisyphe, par exemple, les cas de figure où les humains trompent la mort sont fréquents dans la mythologie grecque.
Il y a c'est la manière, si vous voulez, dont l'espérance se manifeste par ces images-là. Regardez de plus près, depuis la terre où nous sommes, ce qui se passe au-delà de nous. Aller se promener ainsi, descendre, parce que c'est toujours descendre, on descend aux enfers, descendre aux enfers pour y retrouver ceux ou celles qu'on aime, qu'on a aimé. Et j'ai toujours été frappé par le nombre incalculable, encore j'en ai calculé pas mal, mais le nombre de visites guidées des enfers qu'on peut trouver dans la mythologie, à la fois dans la mythologie grecque, dans la mythologie romaine.
Pour rester chez les Grecs, on a Ulysse qui va aux enfers, Orphée qui va aux enfers, Sisyphe qui va aux enfers, Héraclès.
Bien sûr, d'ailleurs Ulysse donnera plus tard à Énée une petite envie de descendre aux enfers également, pour y retrouver son papa, en Kyls ou en Phys, comme vous voulez. Et puis Er, fils d'Arménios, Er le Pamphylien dans la République de Platon, qui est... vous voyez, pour une fois, il y avait un mortel qui ressuscitait. Donc, ça fait penser un peu à du déjà vu. La chance de ressusciter, c'était de pouvoir raconter aux autres ce qui s'était passé aux enfers. enfers.
Mais là encore, Lucien Gerfagnon, il y a une leçon à chaque fois. Parce que lorsqu'Ulysse va aux enfers et qu'il discute par exemple avec Achille, bon, il voit sa maman, ce qui le chagrine beaucoup.
Oui.
Il discute avec Achille qui lui dit que la postérité, la gloire à laquelle il a sacrifié son existence, en toute connaissance de cause, Achille savait qu'il mourrait en partant faire la guerre à Troie, mais qu'il mourrait pour devenir immortel, qu'il échangerait la postérité contre l'existence bienheureuse d'un fermier qu'il aurait pu être. La leçon qu'Ulysse retient quand il rencontre Achille, c'est qu'il ne sert à rien de désirer tout cela, que vanité des vanités, en somme. Et les lamentations d'Achille montrent bien à Ulysse que la postérité n'est pas grand-chose. Sisyphe, trompant la mort, se voit condamné lui-même à un supplice éternel, c'est-à-dire à lui-même ne jamais connaître la mort, ne jamais connaître le soulagement de la mort, ni la finitude de l'existence humaine. Orphée, descendant aux enfers, va ressusciter quelqu'un, mais se retourne trop tôt, et là il y aurait beaucoup à dire, probablement. Et puis on va parler d'ailleurs le Pamphylien ensuite. Mais dans ces visites aux enfers, il y a toujours un enseignement.
Il y a toujours un enseignement qui, quelquefois, est moral. Ne faites pas ceci parce que vous descendrez dans un très mauvais coin de l'enfer, et là vous risquez d'en baver pour un fameux bout de temps, c'est-à-dire pour l'éternité. Donc conduisez-vous bien, tâchez de monter le plus haut que vous pouvez en vous conduisant bien, etc. Vous arriverez peut-être jusqu'aux Champs-Élyséens et là vous serez vraiment heureux, ce sera le bonheur, etc. Donc si vous
voulez, votre vie sera meilleure. Oui.
Valorise ces mythes pour mission, si vous voulez, se sont donnés à eux-mêmes pour mission de valoriser la mort. N'en ayez peur que d'une certaine manière. Et s'il doit en arriver du mal pour vous, ce sera bien de votre faute. Voilà. Vous descendrez dans les plus noirs points. Tenez par exemple l'admirable passage dans Virgile, puisque nous sommes toujours dans le monde grec, puisque Virgile, j'allais dire, a copié Homère, et l'a copié intelligemment. Quand il rencontre son papa Anchise, par exemple.
C'est Aîné qui rencontre son papa Anchise.
Aîné qui rencontre son papa Anchise, n'est-ce pas, veut l'embrasser, terre en plexus, il le serre trois fois dans ses bras, mais il ne serre rien du tout, étant donné que papa Anchise est une ombre, n'est-ce pas, il n'est plus rien. Et dans Homère, il y a également la même scène
avec Ulysse et sa maman.
La triple tentation et les tentatives, les deux, d'embrasser la maman. Et là, on embrasse le papa et on embrasse du vide. Mais on y rencontre aussi, par exemple, la pauvre Didon, n'est-ce pas, qui s'est suicidée d'amour.
Dire pour mémoire qu'elle a été abandonnée.
Que on voit recens a vulnere. Il ne faut pas traduire récente quant à la blessure, mais à la blessure encore fraîche.
Mais alors, juste encore un point. Orphée qui va chercher Eurydice aux enfers, et à qui il est fermement recommandé de ne pas se retourner avant qu'elle-même ne sortent des enfers, ne parviennent au terme des escaliers qui la conduisent hors de l'Hadès, et qui cèdent à l'impatience et qui, du coup, la renvoient définitivement. Oui. Quelle interprétation donner de cela ?
Eh bien, l'interprétation que j'en donnerais, ça serait l'interprétation grecque de l'hubris, de la démesure. Et on est toujours ramené au conseil des conseils grecs, Meden Hagan.
Rien de trop.
Rien de trop. Autrement dit, ne te prends pas pour un dieu. Le conseil delphique, ne te prends pas pour un dieu. Tu n'es qu'un homme, tu ne seras jamais que ça.
C'est-à-dire, connais-toi toi-même, ce qu'on a trop souvent lu d'ailleurs.
Oui, gnotis et auton, connais-toi toi-même, ça ne veut pas dire...
Pratique l'introspection,
oui. Sois tout heureux de te découvrir. Ça ne veut pas dire ça. Dans les délices de l'introspection, pas du tout.
Connais-toi toi-même.
Simplement, au contraire, fais gaffe, tu n'es jamais qu'un homme et tu ne seras jamais autre chose. Autrement dit, ne souffle pas plus haut que tu n'as l'esprit, si j'ose ainsi m'exprimer.
C'est vous qui l'avez dit, Lucien Gerfagnon. Berlioz, un extrait des Troyens, le premier acte, c'est la prise de Troie, la scène d'Andromaque. Et Lucien Gerfagnon qui est avec nous pour inaugurer cette semaine que les nouveaux chemins de la connaissance consacrent à la mythologie grecque. Lucien Gerfagnon, on parlait avant d'entendre Andromaque, la prise de Troie et Berlioz, cet opéra grandiose et néanmoins magnifique. On parlait du mythe d'Orphée, je voudrais vous proposer une autre interprétation et savoir si tout simplement elle est recevable ou si c'est un travail profane de suggérer une autre interprétation finalement qu'une interprétation qui serait peut-être conforme à ce que les Grecs avaient en tête. Pourquoi ne pas faire de la quête d'Orphée aux enfers, allant chercher Eurydice, une parabole autour de l'illusion rétrospective, c'est-à-dire de ce sentiment que peuvent avoir les humains, que, en somme, cette espèce de satisfaction qui leur vaut de se retourner sur leur vie et de considérer que tout ce qu'ils ont fait est bien, et sans voir que c'est le geste par lequel ils enterrent précisément tout ce qu'ils ont fait.
Oui, et justement, votre interprétation, elle est celle, je dirais, de notre siècle. Et vous démontrez ainsi, comme on démontre le mouvement en marchant, vous démontrez ainsi que chaque époque peut avoir sa lecture originale de tous ces mythes. On ne peut pas avoir la même lecture d'aujourd'hui, si mes souvenirs sont exacts, au 21e siècle, un certain jour de novembre de 2008. On ne peut pas avoir la même vision de ce mythe que pouvaient en avoir des gens au temps de Platon ou de qui vous voulez. Et c'est tout à fait exact. Au fond, se retourner, on se retourne vers quoi ? Sur quoi ? On se retourne sur quelque chose qui a existé, qui a été...
Mais qui s'estompe à l'instant où on le regarde comme passé, précisément, derrière soi.
Passé. Et là, je reviendrai à Jean Kelevitch en réponse, j'allais dire, à votre objection ou à votre interprétation, qui est en même temps une objection. Je reviendrai en disant, comme Jean Kelevitch, qu'il y a une chose qui ne disparaîtra pas, c'est le fait que ce passé a été. Un jour sera où nous ne serons plus, mais il y a quelque chose de nous qui sera éternel, même s'il n'y a plus de monde, c'est le fait que nous avons été. Et que ce passé qui était notre passé et qui n'est plus pour nous, eh bien, il continue d'être par le fait même d'avoir été.
Mais en même temps, la tentation de réifier le passé, d'en faire une chose, quelque chose dont on soit satisfait, dont on puisse se contenter, cette tentation-là, est-ce qu'on peut se servir de la figure d'Orphée pour, j'allais vous dire, quelle liberté est laissée à l'interprète des mythes, Lucien Gerfagnon? Jusqu'où peut-on aller trop loin dans l'interprétation des mythes, en somme?
Tout le monde a toujours été, d'après ce que je peux savoir, de ce que j'ai lu au cours des siècles, je crois que tout le monde a interprété un peu les mythes à la façon...
Nous sommes, vous et moi, des hommes de deux siècles.
Précisément de deux siècles. Personnellement, moi, je suis né au début du siècle dernier, il faut bien le dire, dans les années 20, tout au début des années 20. Donc, il y a déjà entre nous deux une belle sacrée différence d'âge. Mais, voyez, tout au long de ce que nous appelons l'Antiquité avec un grand A, je remarque que tout le monde a un peu interprété les mythes à sa façon, un peu, j'allais dire, comme ça l'arrangeait. Et ça, dès le début, les mythes prennent quelquefois des sens différents à mesure qu'on avance dans le temps. On y croit de façon également différente, on y investit plus ou moins de soi-même. On vient un moment où on y croit sans y croire, tout en y croyant, et puis vient un moment où on n'y croit plus du tout, et on trouve que c'est complètement barjot, comme on dit élégamment dans le langage d'aujourd'hui, etc., sans se rendre compte que, disant ça, on est barjot soi-même, parce qu'on se figure que ces gens-là sont plus bêtes que nous. Je serais tenté de dire non, ils le sont autrement. Simplement, voyez-vous, voilà, ces gens-là n'étaient pas plus bêtes que nous. D'ailleurs, la preuve en est, c'est que ces gens qui croyaient à tous ces mythes, qui s'y investissaient un peu, eh bien, ils étaient en même temps capables de construire le Parthénon d'Athènes, ils étaient capables de faire des choses, c'est tout même plus joli que Beaubourg, vous voyez, ils étaient capables de faire des mathématiques, ils étaient capables de prévoir des éclipses, etc. Ce qui montre que, tout en croyant au mythe, ils n'étaient pas complètement idiots, de même que Pascal, tout en croyant à Jésus-Christ et à la résurrection de Jésus-Christ, etc., n'est-ce pas, il trouvait le moyen de se promener dans des mathématiques.
De résoudre lui-même toutes les propositions d'Euclide à l'âge de 12 ans.
Et oui, les coniques et toutes ces sortes de choses.
Lucien Gerfagnon, vous-même, vous avez parlé de votre naissance au début du siècle dernier.
Oui.
Restons un instant sur cet épisode
mon Dieu.
Qui appartient à l'histoire et non pas au mythe. Mais
oui.
Justement, avec lequel vous entretenez, en tout cas avec votre enfance, un rapport justement mythologique, me semble-t-il. Dans ce livre qui s'appelle « Les dieux ne sont jamais loin », au milieu du récit des mythes, de considérations sur les mythes, sur la rationalité qui est à l'œuvre dans les mythes, sur la fausseté d'une interprétation rigoureusement rationnelle des mythes, de mille et un récits, des aventures de Narcisse, d'Orphée, que sais-je, ou d'Ère le Pamphylien. Au milieu de cela, au début du chapitre intitulé « L'aurore des dieux », vous substituez votre propre mythologie. Lucien Gerfagnon, vous racontez une nuit d'orage, le 14 juillet 1925, dont vous faites votre premier orage conscient. Et ce qui est étonnant, c'est que dans le récit que vous-même en donnez, on se dit presque que la foudre est entre les mains de Zeus et qu'elle tombe. Et la façon que vous avez de raconter cela témoigne d'un rapport mythologique à votre propre existence. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ?
Oui, le petit môme de 5 ans que je revois très bien... Le petit môme de 5 ans, décidément, n'arrivait pas à se faire à ce boucan épouvantable, à ces éclairs qui, tout à coup, illuminaient le salon et trouvait que, véritablement, ce jour-là n'était pas comme les autres. Et on venait de me dire que c'était la nuit du 14 juillet. Alors, du coup, pour moi, quand il y avait de l'orage, je disais, tiens, il va faire du 14 juillet, parce que c'était la date même où ça s'était passé. Mais c'est tout simplement que je ne comprenais pas du tout, ça bouleversait à la fois l'espace et le temps.
Ce qui est intéressant, pardonnez-moi, c'est que vous racontez que vous aviez deux grand-mères, dont l'une était dévote et
oui,
l'autre ne l'était pas.
Oui,
de sorte que vous avez eu du phénomène de
oui,
la foudre, l'interprétation oui. mythologique comme une interprétation scientifique.
Oui, qui était une rationaliste fervente, une autre
une dévote du rationalisme.
Plutôt pieuse, voyez. Donc, du coup, je me disais, tiens, c'est curieux, il y a deux manières de voir les choses. Et en allant en classe, j'ai pu voir qu'il y avait 36 manières de voir les choses. C'était... Et puis, à mesure que j'avançais à la fois en âge et, je dirais pas en sagesse, parce que ça ne m'est jamais arrivé, mais ou au moins en train d'acquérir quelques connaissances, je m'apercevais qu'il y avait mille et une manières de voir les choses. Et que malgré tout, je ne comprenais toujours rien. Mais ce qui s'appelle rien, au fait qu'il y a quelque chose plutôt que rien, justement. Comment se fait-il que je sois là, en train de regarder quelque chose que je ne comprends pas ? Je n'en comprends que les surfaces. Je sais que ceci est un fauteuil, je sais que ça c'est une lampe, je sais que ça c'est mon doigt. Mais qu'est-ce que ça fait là ? Et du coup, j'ai eu cette intuition, appelons ça de la contingence. C'est là, mais ça pourrait n'être pas dans ma tête. J'ai eu cette intuition de la contingence qui a tout flanqué en l'air de mes sécurités. J'ai su que je ne serais jamais sûr de moi, parce que je ne savais pas d'où je procédais, je ne me voyais pas procédant de... Or, très précisément, les mythes dont nous parlions, ça donne aux hommes l'impression qu'ils procèdent de quelque chose, et que leur 14 juillet, si j'ose dire, les orages... c'est un dieu qui râle parce qu'il s'est passé quelque chose. Peut-être même nous en veut-il, peut-être même lui a-t-on manqué de respect sur tel ou tel point. Voyez. Mais du coup, même si on a très peur, on est quand même gagnant parce que le monde a un sens. Le monde a un sens alors qu'il... alors qu'il n'en avait pas avant.
Et est-ce que le fait de donner un sens au monde, cette première entreprise, c'est la question que je vous posais tout à l'heure, mais on peut la reposer cette fois-ci à grands frais. La démarche de l'enfant, par exemple, qui se donne une interprétation mythologique de ce qu'il voit, quand on se représente ses parents comme des géants, quand on se représente oui. un orage comme une punition, comme un châtiment, bref, quand on a un rapport enfantin à tout cela, est-ce que ce premier geste nous éloigne de la connaissance ou est-ce qu'il nous y pousse ou est-ce qu'on est tout simplement ailleurs ?
Il vous y pousse autrement à la connaissance. On sait que la connaissance rationnelle, c'est une partie seulement de la connaissance et qu'au-delà de la raison, il y a tout un monde que vous ne comprendrez jamais, vous ne comprendrez même jamais pourquoi il y a une raison tout à coup.
Et c'est en un éclair qu'on comprend, qu'on ne le comprend
voilà.
pas. La chasse royale et l'orage, tiré des Troyens de Berlioz pour illustrer le récit de votre enfance, Lucien Gerfagnon, et par conséquent la mythologie propre à chacun.
Je vous l'avais bien dit qu'il ferait de l'orage.
Voilà, Berlioz a toujours raison. Lucien Gerfagnon, quand même une question, parce que c'est la difficulté d'interprétation des mythes se pose quand les mythes se donnent comme de simples récits, mais quand en revanche, par exemple, ils ornent, comme le mythe de Gigès, ou bien le mythe fameux d'Er le Pamphylien, quand ils font partie de façon intégrante et pédagogique, finalement, d'un ouvrage, d'un maître-livre, d'un grand philosophe, comme c'est le cas de Platon, avec la République, quand ces mythes sont inscrits dans un discours général, dans une intention générale, est-ce qu'on peut avoir à leur endroit, là encore, cette liberté interprétative ou est-ce qu'il faut souscrire à l'interprétation qui était celle des philosophes ?
Je crois qu'il vaut mieux à ce moment-là essayer de comprendre pourquoi Platon a utilisé tel ou tel mythe, car il y en a pas mal, plutôt que de continuer à parler, à raconter ce que Socrate disait à un tel ou un tel. Enfin, ce qu'il faut comprendre, c'est tout simplement quand Socrate renvoie à un mythe, c'est tout simplement parce que la question qu'il veut aborder est une question qui est très difficilement abordable par la simple et pure raison.
Et comme vous voulez dire que l'intention est uniquement pédagogique ?
C'est une intention, à mon humble avis, pédagogique. C'est ce que moi je pense maintenant que les gens qui sont plus forts que moi essaient de trouver autre chose. Mais moi, je dis ceci, c'est que bien souvent... C'est au moment où rationnellement on aurait beaucoup de mal à expliquer, et pourtant Dieu sait si Socrate s'y connaissait. Lisez le Parménide par exemple, avec toutes les hypothèses du Parménide.
Nous le ferons bientôt dans les nouveaux chemins de la connaissance, c'est prévu.
Savoir si l'un est, si l'un n'est pas, etc. Bon, donc il sait se promener dans les concepts, Monsieur Socrate. Hein. Bon. Et M. Platon aussi par la suite. Mais en revanche, quand on aborde la question des questions comme la vie, la mort, etc., et surtout l'être, pourquoi l'être, etc., il vaut mieux à ce moment-là qu'il y ait une allusion mythique. Pour l'amour, par exemple, Diotime de Mantinée, la Mantinéenne qui est interrogée.
C'est le mythe de la naissance d'Eros.
Au fond, qu'est-ce que l'amour ? Et c'est Diotime de Mantinée qui lui dit qu'il faut monter d'un beau corps à tous les beaux corps, des beaux corps aux belles âmes, etc., de grimper jusqu'à ce qui est beau par soi seul. Voilà. Ça serait d'ailleurs à rapporter à, également à République 6 avec l'échelle des valeurs de la connaissance.
Les différents degrés de la vérité.
Voilà, et vous rapprochez les deux. Et du coup, vous comprenez beaucoup mieux le Parménide.
Alors, une chose d'ailleurs, pour en rester sur Platon, on arrive au terme de cette émission.
Mon Dieu, déjà, comme le temps passe.
Vous voyez, comme le temps passe vite. Il passe plus vite que l'éternité, en tout cas.
C'est vrai.
Pour en revenir à ce qu'on disait de Platon et du mythe d'Ère le Pamphylien, qui, pour mémoire, hein, je le dis aux auditeurs, se trouve à la fin de la République. C'est un texte extraordinaire, c'est à la fin du livre 10 de la République. Il y a ce paradoxe. Donc c'est un homme qui revient du séjour chez les morts,
et oui,
miraculeusement est ressuscité, qui raconte ce qui se passe là-bas, oui. Et qui raconte que les âmes choisissent elles-mêmes le destin auquel elles ne pourront ensuite se soustraire, de sorte qu'on ne sait plus véritablement si un homme est l'artisan de son destin, s'il est donc responsable de ses actes, ou si au contraire, il peut invoquer le manque de chance, finalement, pour justifier la vie qu'il a eue.
Et le destin, on touche là, grâce au mythe, à cet effroyable problème de la liberté. Et ça montre que tous les mythes ont été, comment dirais-je, produits là et utilisés à chaque instant pour essayer de comprendre ce qu'on n'est pas fichu de comprendre. Le mythe, il est là pour essayer de vous, et également pour vous donner ce rien d'espérance.
Mais est-ce que ça n'est pas aussi une façon de ne pas répondre aux questions, finalement? L'avantage d'un récit, c'est qu'il transcende la question.
Oui, mais pas tout à fait comme quand on dit à un gosse, on verra ça une autre fois. Ça veut plutôt dire, oui, mais écoutez plutôt cela, vous comprendrez mieux que tout ce que je pourrais vous raconter, en sous-entendu. C'est ça que ça veut dire, à mon humble avis. Hein.
Sur la bande originale de Orfeo Negro, qu'on se sépare, hein, 1959, Marcel Camus, Lucien Gerfagnon. Merci à vous d'être venu nous parler des mythes, Lucien Gerfagnon. Je rappelle, pour mémoire, pour l'éternité, que vous êtes philosophe, professeur émérite des universités, membre associé de l'Académie d'Athènes et historien des idées, on peut le dire comme
Personne
ça.
Personne n'est parfait, comme je le dis toujours.
C'est avec vous qu'on vient de commencer cette semaine sur la mythologie grecque. Je veux citer ici, pour l'auditeur, deux de vos livres. On aurait pu dire bien des choses en somme encore, et puis parler d'autres livres. Je me contenterai d'en citer deux. Au bonheur des sages, qu'on trouve chez Pluriel, enfin dans la collection Pluriel, chez Hachette, en 2007. Et Les dieux ne sont jamais loin, qui se trouve chez Desclés de Brouwer, paru en 2002. Suite demain de cette semaine que les nouveaux chemins de la connaissance consacrent au mythe. Et demain, c'est du mythe de Sisyphe que nous parlerons en compagnie de Pierre Brunel. Allô, tu vas aller voir, patron. À la technique aujourd'hui, c'était Jacques Vincent. À la réalisation, François Connac. Assistante, Geneviève Méric, Avril Ventura, Adèle Van Rett et Léonore Clovis, Gabriel Alperne.